14h53, juste avant de vous parler de ça. La toune m'a surpris un peu, mais c'est tellement bon. Scorpions et Wind of Change, on se demande. Et là, on a maintenant certaines révélations. Vous en avez parlé, ça va être extrêmement intriguant il y a quelques temps. Est-ce que cette chanson-là, qui a été un peu la chanson phare de l'écroulement du rideau de fer, ça a été un peu la chanson thème, je ne sais pas si on peut...
La chanson thème de la chute du mur de Berlin.
Ouais, ça a été un peu la chanson thème de l'effondrement du mur de Berlin, la fin un peu du bloc de l'Est communiste. Est-ce que cette toune-là a été écrite par la CIA? Est-ce que la CIA, on le sait qu'il y a toutes sortes de tentatives d'infiltration, de faire passer des messages derrière le rideau de fer à l'époque de la guerre froide, mais est-ce qu'ils ont pu aller jusqu'à écrire une toune de Scorpions?
La réponse est, ils ont pu aller jusqu'à écrire une toune, mais évidemment, je ne donnerai pas la réponse finale de la série, parce que j'aimerais ça que vous y alliez l'écouter, si vous parlez anglais, bien entendu, parce que c'est une série qui est en anglais sur Spotify, qui s'appelle Wind of Change, donc le titre de la chanson de Scorpions. J'ai écouté les 8 épisodes dans la dernière semaine. D'abord, c'est captivant. C'est vraiment un voyage fascinant. Le journaliste qui est derrière ça s'appelle Patrick Radden Keefe. C'est un journaliste du New Yorker d'enquête. Il a voyagé en Ukraine, en Russie, en Allemagne, un peu partout aux États-Unis. Il a parlé à des gens de la CIA. Il a parlé à des gens de l'industrie musicale. Il a parlé au chanteur de Scorpions, Klaus Meiner, concernant l'écriture. Il a parlé à vraiment tout le monde. Donc, c'est vraiment un voyage fascinant au cœur de cette époque charnière du 20e siècle. Et c'est aussi une série qui est d'actualité. D'abord, je vous replace un peu dans le contexte de ça. Wind of Change, selon ce que Klaus Meiner, le chanteur de Scorpions, a toujours dit, c'est suite à un concert à Moscou, le Moscow Peace Festival en 1989, quand plusieurs bands de rock vont se produire à Moscou pour la première fois. Pendant plusieurs décennies, les groupes de rock ne pouvaient pas se produire en URSS parce qu'évidemment, c'était l'influence américaine qu'il ne fallait pas entrer. Mais lors de ce concert-là, il y a Bon Jovi, il y a Ozzy Osbourne qui est là, il y a également, voyons, j'ai un blanc sur le c'est pas grave, il y a Scorpions, ouais. il y a Motley Crue, c'est Motley Crue que je cherchais, qui okay. vont être là au Lenin Stadium à ce moment-là à Moscou, puis ils vont jouer ensemble. Et Klaus Meiner de Scorpions va dire, j'ai tellement été inspiré par cette soirée-là que par la suite, je suis arrivé chez nous puis j'ai composé Wind of Change. Alors que les chansons de Scorpions, quand vous les connaissez, le Rock You Like a Hurricane ou autre, c'est souvent des chansons très, très rock, très clichés en termes de paroles. C'est rarement politique. Et Wind of Change est une chanson éminemment politique et qui a été composée en plus par Klaus Meiner qui d'habitude ne composait pas la musique. Alors, ça fait poser la question.
D'habitude, c'est pas lui.
Non.
Puis d'habitude, c'est pas son genre de thème. Mais il s'excusait puis il s'expliquait en disant, j'ai été à Moscou donner un concert, ça m'a inspiré un vent de liberté qui souffle en Wego.
C'est ça, parce que dans la chanson, ça commence par I follow the Moskva down to Gorky Park. Je suis la rivière Moskva.
Ouais, donc ça se peut.
Bon, puis je me suis inspiré de ça et j'ai composé la chanson. Sauf que là, le journaliste en question part d'une affaire qui date d'à peu près 10 ans, en 2009, quand un de ses chums, très bien branché, qui a été une de ses sources pour plusieurs dossiers, il dit « Savais-tu que un haut placé de la CIA, un ancien haut placé de la CIA, m'a dit que la CIA a composé Wind of Change de Scorpions pour faire tomber le rideau de fer et faire tomber le bloc de l'Est? » Fait que là, Patrick Radden Keefe dit, ben voyons, c'est n'importe quoi, ça.
Non, mais t'imagines tout ça, là, les milliards qu'ils ont dépensés pour avoir de l'armement, des tanks, les meilleurs avions, des chasseurs, des missiles nucléaires, puis c'est une toune qui fait tomber le mur de Berlin. Une chanson. Est-ce possible?
Et là, ben, lui, le journaliste, va rencontrer la source de son ami qui, lui, va refuser d'être interviewé, mais va pas revenir là-dessus, mais grosso modo, va dire, ben oui, il y a quelque chose là-dedans. Et là, la série commence. Et c'est là que tu réalises à quel point la culture peut être forte. Et il y a des précédents, on en a parlé. Récemment, le film Argo, que tu connais peut-être, là, ouais. Le film qui a remporté meilleur film en 2013, qui raconte une opération en 1979 des Américains pour aller exfiltrer des otages en Iran qui se sont réfugiés. Ouais. Ils vont se faire passer pour une équipe de films, un faux film qui s'appelle Argo sur place, puis là, ils vont faire l'opération.
Ben, donc, ils ont déjà joué dans la culture un peu, ils ont déjà fait ça, la CIA, là, pour essayer d'infiltrer. Là.
Ben, c'est le chef de la CIA qui a sorti l'histoire pour que le film soit fait. C'est le boss de la CIA qui a dit « Je suis tanné de la façon dont on dépeint la CIA, on va leur donner une bonne histoire. » Puis lui, il a dit ça à un agent qui a dit « Va voir Hollywood, puis fais-leur faire ça. » Puis il a dit « Ben là, c'est quelque chose
Argo.
Qui est... » Oui, Argo. Alors la CIA est
le
derrière...
Le film de Ben Affleck, c'est oui. vraiment la CIA qui a dit « Ça va redorer notre blason, puis on va raconter au monde comment on a réussi à libérer les otages en Iran. »
Et voilà.
Et ça a donné le seul bon film de Ben Affleck. C'est aussi le surnom du film, le seul bon film de Ben Affleck.
C'est excellent, effectivement, mais c'est la CIA qui a décidé de sortir ça. Donc, il y a de l'influence nécessairement. Il y a plusieurs missions avec des chanteurs américains. On donne l'exemple dans la série de Marlene Dietrich, qui était une ressortissante allemande contre les nazis, qui s'est réfugiée aux États-Unis. Et pendant la guerre, l'OSS, qui était l'ancêtre de la CIA, faisait jouer des chansons de Marlene Dietrich sur les ondes en Europe pour démoraliser les troupes allemandes. Donc, c'est des choses qui existent.
Il y a eu des radios pendant la Seconde Guerre mondiale, autant les Allemands que les Alliés. Chacun avait ses radios qui diffusaient en territoire ennemi pour essayer d'influencer, là.
Exactement. Et le groupe Scorpions, c'est un groupe qui est fascinant, puis on le découvre au fil des épisodes parce que c'est un peu bizarre. C'est un groupe de Hanovre en Allemagne qui chante en anglais, qui s'est fait connaître à l'extérieur de l'Allemagne avant d'avoir du succès en Allemagne, qui est très, 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 très connu en Russie. C'est probablement un des bands. Il fait des vox pop. Tout le monde connaît Scorpions. Tout le monde connaît Wind of Change. Puis une anecdote à un moment donné qui est très bonne sur la chanson Still Loving You de Scorpions, qui est sortie en 1984. Et la chanson Still Loving You a tellement pogné en France entre 1984 et 1985 qu'il y a eu un baby boom avec Still Loving You. Tellement les gens faisaient l'amour sur la toune.
Oh, ça me rappelle le cartel. Des souvenirs, le cartel.
Ben oui, au Capitole.
Au Capitole.
Il y a une autre époque.
Oh, hey,
mais
oui,
ça, on a tellement cherché à faire augmenter la natalité au Québec. T'es en train de me dire, Jean-Simon, que pendant une panne de courant, on fait jouer ça à la radio, puis bingo.
Oh, des bébés. Exactement. En tout cas, c'est une anecdote parmi tant d'autres. Maintenant, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Là, c'est la question qui demeure, évidemment. Et on retrouve le journaliste dans cette quête de la vérité-là. Et à un moment donné dans la série, il se retrouve face à une journaliste russe qui lui sert d'interprète et il lui dit pourquoi il la rencontre et pourquoi il est en Russie, tout ça. Et la journaliste dit, tu me niaises que t'enquêtes là-dessus, tu me niaises que t'enquêtes sur ce genre de théorie de la conspiration-là qui a pas de bon sens. Puis elle, ça la détruisait un peu parce qu'elle disait, Wind of Change, c'est tellement une chanson symbolique. C'est une des chansons les plus importantes du 20e siècle. On vous a parlé de la guerre froide. Et là, t'es en train de me démolir ça en disant que c'est la CIA qui est en arrière de ça. Elle dit, t'es en train de faire le jeu de Vladimir Poutine. Le gars fait, voyons donc. Vladimir Poutine, ce serait exactement le genre d'affaires qui sortirait. Ce serait exactement le genre de mensonge qui passerait dans ces médias contrôlés pour dire que les Américains essaient de contrôler les Russes. Puis il dit, pense-y aussi, l'histoire vient d'un gars de la CIA. Qui dit que c'est pas toi qui es en train de faire de la propagande de la CIA présentement avec une histoire montée de toutes pièces?
D'un coup, c'est pas vrai. C'est ce qui est compliqué dans le domaine de l'espionnage, le mensonge,
exact.
Vérité, contre-mensonge. Bon, alors, ça pourrait être la CIA qui, c'est elle-même qui fait courir la rumeur qu'ils ont écrit la toune Wind of Change.
Et oui, et
pour déstabiliser un peu l'adversaire.
Et ça amène tout le questionnement. Puis là, il dit à un moment donné, il dit, je l'ai réalisé au fil de mon enquête. Plus j'allais profondément dans le rabbit hole, dans le trou de lapin, plus je me rendais compte que si je crois à ça, je me mets à croire à tout. Là. Et là, ça nous ramène à notre contexte actuel avec toutes les théories du complot et de la conspiration et tout ça. Et à quel point c'est complexe. Parce que définitivement, oui, il y en a eu des complots. Il y a eu des opérations secrètes. Il y a des choses que cachent les agences, que cachent la CIA. C'est certain, ça existe, ces choses-là. Maintenant, il faut pas croire à des super complots où est-ce que tout le monde se met ensemble. Est-ce que réellement la CIA a pu écrire une chanson dans le but de faire tomber le rideau de fer et après ça, Klaus Meiner de Scorpions dire c'est moi qui l'ai écrite en m'inspirant de mon voyage à Moscou? C'est très, 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 très gros, évidemment, comme affirmation.
Mais je sais que tu veux pas nous conter le punch, là,
oui.
Mais est-ce qu'il y en a un? Est-ce qu'à la fin, ce journaliste-là dont tu nous parles réussit à savoir la vérité? Est-ce que c'est vraiment la CIA qui a écrit la chanson ou c'est tout simplement Scorpions? Est-ce qu'il arrive à ça à la fin?
Il n'y a pas de réponse définitive.
OK.
Mais c'est satisfaisant. Disons qu'avec le nombre d'intervenants à qui il parle, que ce soit des intervenants de la CIA, des gens de l'industrie musicale, Klaus Meiner lui-même, il y a une réponse. Moi, j'ai fini la série en ayant d'abord eu une réflexion importante sur ce genre de questionnement-là, sur ce genre d'opération-là, sur notre monde d'aujourd'hui aussi, parce qu'il dit, tu sais, c'est plus d'actualité que jamais. Quand on sait que les Russes se sont impliqués dans les élections aux États-Unis, quand on sait qu'il y a une guerre de propagande qui se fait, il faut se questionner. Là. Et puis, à un moment donné, il y a un intervenant de la CIA qui dit aux journalistes, il dit, moi, je pense que c'est très plausible, cette théorie-là, très, très probable. Puis d'après moi, ça se fait encore. D'après moi, il y a encore de la CIA qui compose des tunes.
En passant, en terminant, si Poutine veut se servir de ça pour essayer de montrer que les Américains faisaient des choses pas correctes, essayaient de manipuler l'opinion publique soviétique, tu sais, on sait la guerre froide est finie, là. On connaît le score entre le KGB et la CIA, là. C'est genre, je dirais, 30-2 pour le KGB, là, selon les experts. Là. Easy, là. Parce qu'ils avaient le droit, eux autres, de faire à peu près n'importe quoi, alors que le CIA avait des règles, il fallait qu'ils fassent attention. Le KGB était vraiment meilleur. Ils ont réussi à infiltrer, par exemple, des universités à Londres à un point incroyable. Il y avait, regarde, on va vous donner un exemple, je veux pas trop prendre du temps, mais il y avait un espion soviétique à l'Université Laval dans les années 70.
Ah oui?
Oui, il y avait un prof de l'Université Laval qui était un espion à la solde du KGB.
Il enseignait quoi?
Ben oui.
Il enseignait, c'est un reportage du Point de Simon Durivage dans le temps, okay, qui avait fait la lumière là-dessus. Et j'étais tombé dans les archives de Radio-Canada à un moment donné. Je me souviens pas, il enseignait quoi, je suis vraiment désolé. Mais il était à la solde de l'URSS, puis ça c'est ceux qu'on a découverts en passant. Il y en a plein, que ce soit ici, ailleurs, qui ont jamais été découverts et qui ont travaillé pour l'URSS. Alors, là-dessus, là, les Soviétiques n'ont pas, ou Poutine, les Russes n'ont pas de réprimande, mettons, à nous faire. Pendant la guerre froide, ça jouait dur des deux côtés. Tu l'as, hey, là?
C'est hot. Ben, attends un peu, là.
C'est sur Internet, là. C'est connu. C'est pas un scoop, là.
Non, ça, c'est ça. Je veux juste pas dire un nom qui n'est pas le bon, là.
Attends, ouais, tant qu'elle donne un nom, c'est ça qu'il faut.
Je vais juste dire ça au
complet.
Faut
pas se tromper, là. 15h06 au FM 93.
Le professeur Sylvain, c'est Hugh Hambleton, qui est un économiste canadien. Il était professeur de sciences économiques à l'Université Laval. Il était effectivement un espion au service de l'Union soviétique et du KGB.
Ouais, ça c'est lui qu'on a pogné.
Oui, effectivement.